Mardi 6 août 2013. Matin. J'ai à peine dormi. Je suis restée éveillée toute la nuit à y penser, à tourner et retourner l'idée dans tous les sens dans mon esprit. Est-ce bête, inconscient, inutile, dangereux? Je ne sais pas ce que je fais. J'ai pris rendez-vous hier matin pour voir le docteur Kamal Abdik. J'ai appelé son cabinet. J'ai eu une réceptionniste à qui j'ai demandé à le voir lui, personnellement. Peut-être que c'est mon imagination, mais j'ai trouvé qu'elle semblait surprise. Elle a dit qu'il pouvait me recevoir mardi, aujourd'hui, à 16h30. Si vite? La bouche sèche, j'ai répondu que cela me convenait. La séance coûte 75 livres. Les 300 livres de ma mère ne vont pas me durer bien longtemps. Depuis que j'ai pris rendez-vous, je n'arrive plus à penser à autre chose. J'ai peur, mais je suis excitée aussi. Je ne peux pas le nier, une partie de moi trouve l'idée de rencontrer Kamal palpitante. Après tout, tout cela a commencé avec lui. Je ne l'ai qu'entreaperçu et ma vie a pris un tour inattendu, elle est sortie de ses rails. Au moment où je l'ai vu embrasser Meghan, tout a changé. Et j'ai besoin de le voir. J'ai besoin de faire quelque chose, parce que la police ne s'intéresse qu'à Scott. On l'a encore interrogé hier. Bien sûr, la police refuse de confirmer. Mais sur Internet, on trouve des images de Scott entrant dans le commissariat, sa mère à ses côtés. Sa cravate était trop serrée. On aurait dit qu'elle l'étranglait. Tout le monde y va de son hypothèse. Les journaux estiment que la police essaye d'être plus prudente, qu'ils ne peuvent pas se permettre une nouvelle arrestation précipitée. On parle d'une enquête bâclée, on suggère qu'un changement d'équipe est nécessaire. Sur Internet, on raconte des choses terribles sur Scott, des théories dingues, immondes. On voit des captures d'écran de sa première intervention télévisée, où, en larmes, il demandait le retour de sa femme. Et à côté, des images d'assassins qui sont également apparues aux informations en pleurs lorsqu'ils semblaient eux aussi désemparés par la disparition d'un être cher. C'est horrible, inhumain. Je ne peux que prier pour qu'il ne tombe jamais sur ces choses-là. Ça lui briserait le cœur. Alors c'est peut-être bête ou inconscient, mais je vais rencontrer Kamal Abdik. Car contrairement à tous ceux qui tirent des conclusions hâtives, moi, j'ai vu Scott. J'ai été assez proche de lui pour le toucher. Je le connais, et ce n'est pas un meurtrier. Soir. Je chancelle en montant les marches de la gare de Corly. Ça fait des heures que je tremble ainsi. Ça doit être l'adrénaline. Mon cœur refuse de ralentir. Le train est bondé. Je n'ai pas la moindre chance de trouver un siège là-dedans. Ce n'est pas comme d'embarquer à Houston. Alors je me tiens debout, au milieu de la voiture. C'est de la torture. Je m'applique à respirer calmement, en fixant mes pieds. J'essaye d'analyser ce que je ressens. De l'exultation, de la peur, de la confusion et de la culpabilité. Surtout de la culpabilité. Ce n'était pas ce que j'avais imaginé. Le temps de me rendre au cabinet, j'avais réussi à me mettre dans un état de terreur absolue. J'étais convaincue qu'un seul regard lui suffirait pour savoir que je savais, pour me voir comme une menace. J'avais peur de dire ce qu'il ne fallait pas. Peur de ne pas parvenir à m'empêcher de prononcer le nom de Meghan pour une raison ou une autre. Puis je suis entrée dans une salle d'attente, banale, ennuyeuse, et j'ai parlé à une réceptionniste d'une trentaine d'années qui a noté mes coordonnées sans vraiment me prêter attention. Je suis allée m'asseoir et j'ai attrapé un exemplaire de Vogue que j'ai feuilleté de mes doigts tremblotants. J'essayais de me concentrer sur l'épreuve qui m'attendait, tout en m'attachant à manifester la même lassitude que les autres patients. Il y en avait deux autres, un homme d'une vingtaine d'années qui lisait quelque chose sur son téléphone, et une femme plus âgée qui regardait ses pieds d'un air sombre, sans jamais lever les yeux, même quand la réceptionniste l'a appelée. Elle s'est levée et est partie d'un pas traînant. Elle savait où aller. J'ai attendu 5 minutes. 10. Je sentais ma respiration se faire plus difficile. Il faisait chaud dans la salle d'attente, et il n'y avait pas le moindre courant d'air, ce qui me donnait l'impression que je n'avais pas assez d'oxygène pour remplir mes poumons. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Puis, une porte s'est ouverte brusquement et un homme est entré. Et, avant même d'avoir eu le temps de bien le voir, j'ai su que c'était lui. Je l'ai su de la même manière que j'avais su que ce n'était pas Scott la première fois que je l'avais vu. Quand il n'était rien de plus qu'une ombre fondant sur elle, une simple impression de grande taille, de mouvements amples, mesurés. Il m'a tendu une main. « Madame Watson ?» J'ai levé les yeux pour croiser son regard et j'ai senti une décharge électrique me parcourir jusqu'en bas du dos. J'ai glissé ma main dans la sienne. Elle était chaude, sèche et immense. Elle enveloppait entièrement la mienne. « S'il vous plaît », a-t-il dit en me faisant signe de le suivre dans son bureau. Je me suis exécutée et sur ce court trajet, je me suis sentie mal, prise de vertige. Je marchais dans ses pas. Elle avait fait tout cela. Elle s'était assise en face de lui, dans le fauteuil qu'il venait de m'indiquer. Il avait probablement calé les mains sous son menton comme il le faisait cet après-midi, et il avait probablement hoché la tête de la même manière en lui disant « Bien, de quoi avez-vous envie de me parler aujourd'hui ?» Tout en lui donnait une impression de chaleur. Sa main quand je l'avais serrée, ses yeux, le ton de sa voix. J'ai examiné son visage à la recherche d'indices, de signes de la brute sauvage qui avait ouvert le crâne de Meghan, de l'ombre du réfugié traumatisé qui avait perdu sa famille. Je n'ai rien vu. Et un instant, je me suis oubliée. J'ai oublié d'avoir peur de lui. Assise là, je ne paniquais plus. J'ai dégluti. J'ai essayé de me souvenir de ce que j'avais à dire et je l'ai dit. Je lui ai raconté que j'avais des problèmes de boisson depuis 4 ans, que mon alcoolisme m'avait coûté mon mariage et mon emploi, que, de toute évidence, il me coûtait ma santé et que je craignais qu'il ne finisse par me coûter la raison. « Je ne me souviens pas de certaines choses, » ai-je dit. « Je perds connaissance et j'oublie où je suis allée et ce que j'ai fait. Parfois, je me demande si j'ai fait ou dit des choses affreuses et je ne m'en souviens pas. Et si quelqu'un me dit quelque chose que j'ai fait, ça ne me ressemble pas. Je n'ai pas l'impression que ça ait pu être moi qui ai fait ces choses-là. Et c'est tellement dur de se sentir responsable de quelque chose dont on ne se souvient pas. Alors, je ne me sens jamais assez coupable. Je me sens mal, mais ce que j'ai fait, c'est en dehors de moi. C'est comme si ça ne m'appartenait pas vraiment. » J'ai sorti ces mots. J'ai étalé toute cette vérité à ses pieds, après quelques minutes à peine en sa présence. J'étais prête à en parler, j'attendais de pouvoir confier tout cela à quelqu'un. Mais ça n'aurait pas dû être lui. Il m'a écoutée, ses yeux ambrés posés sur moi, les mains jointes, sans un mouvement. Il n'a pas balayé la pièce du regard et n'a pas pris de notes. Il a écouté. Puis, imperceptiblement, il a hoché la tête et a dit « Vous voudriez assumer ce que vous avez fait. Mais c'est difficile parce que vous avez du mal à vous sentir responsable de quelque chose dont vous ne pouvez pas vous souvenir. » « Oui, c'est ça. C'est exactement ça. » « Bien. Quels sont les moyens que nous avons d'assumer les conséquences ? Vous pourriez vous excuser, même si vous ne vous rappelez pas avoir commis les fautes en question. Ça ne signifie pas que vos excuses et le sentiment qui motive vos excuses ne seraient pas sincères. Mais je voudrais le ressentir. Je voudrais me sentir plus mal. » C'est étrange à dire, mais c'est pourtant ce que je ressens. Je ne me sens pas assez mal. Je sais de quoi je suis responsable. Je sais les choses terribles que j'ai faites, même si je ne me souviens pas des détails. Mais je me sens détachée de ces actes, en marge. Vous pensez que vous devriez vous sentir plus mal que vous ne vous sentez déjà? Que vous ne vous sentez pas suffisamment coupable de vos erreurs? Oui. Kamal a secoué la tête. Rachel. « Vous m'avez dit que vous aviez perdu votre mariage, que vous aviez perdu votre emploi. Vous ne pensez pas que c'est une punition suffisante ?» J'ai secoué la tête à mon tour. Il s'est légèrement redressé dans son fauteuil. « Je crois que vous êtes peut-être trop dur envers vous-même. »« Non. »« D'accord, très bien. Est-ce qu'on pourrait revenir un peu en arrière, au moment où vos problèmes ont commencé? Vous avez dit que ça avait démarré il y a 4 ans? Vous pouvez me parler de cette époque? J'ai résisté. Je n'étais pas complètement envoûtée par la chaleur de sa voix, la douceur de son regard. Je n'étais pas complètement fichue. Je n'allais pas me mettre à lui raconter toute la vérité, à lui dire à quel point j'avais voulu un enfant. Je lui ai dit que mon couple s'était effondré, que j'étais déprimée et que j'avais toujours bu facilement, mais que là, ça avait dégénéré. Votre couple s'est effondré, c'est-à-dire, vous avez quitté votre mari? Ou il vous a quitté? Ou vous vous êtes quitté? Il a eu une aventure, ai-je dit. Il a rencontré une autre femme et il est tombé amoureux d'elle. Il a hoché la tête et attendu que je continue. Mais ce n'était pas sa faute, c'était la mienne. Pourquoi dites-vous cela? Eh bien, mes soucis de boisson ont commencé avant. Alors ce n'est pas l'infidélité de votre mari qui les a déclenchés? Non, j'avais déjà commencé. Et c'est ça qui l'a poussé à partir, c'est pour ça qu'il a arrêté de... Kamal n'a rien dit pour m'inciter à finir, il m'a laissé tranquille et a attendu que je dise les mots à voix haute. C'est pour ça qu'il a arrêté de m'aimer. Je me déteste d'avoir pleuré devant lui. Je ne comprends pas pourquoi j'ai si facilement baissé ma garde. Je n'aurais pas dû aborder de vrais sujets. J'aurais dû venir avec de faux problèmes à lui servir, un personnage imaginaire. J'aurais dû mieux me préparer. Je me déteste d'avoir cru, l'espace d'un instant, qu'il compatissait. Parce qu'il m'a regardé comme si c'était le cas, pas comme s'il avait pitié de moi, mais comme s'il me comprenait. Comme si j'étais quelqu'un qu'il voulait aider. Mais alors, Rachel, vous avez commencé à boire avant que votre mariage s'effondre. Est-ce que vous arriveriez à mettre le doigt sur une raison sous-jacente? Bien sûr, tout le monde ne le peut pas. Pour certaines personnes, il n'y a qu'une sorte de glissement vers la dépression ou l'addiction. Est-ce que c'était quelque chose de précis en ce qui vous concerne? Un deuil? Une épreuve particulière? J'ai secoué la tête et haussé les épaules. Je ne comptais pas lui parler de ça. Je ne lui parlerai pas de ça. Il a patienté quelques instants, puis jeté un rapide coup d'œil à l'horloge posée sur son bureau. « Nous reprendrons la prochaine fois, peut-être » a-t-il dit. Puis, il m'a souri et cela m'a glacé. Tout en lui est chaud, ses mains, ses yeux, sa voix, tout sauf son sourire. On décèle le tueur en lui dès qu'il montre les dents. Des nœuds dans l'estomac, le pouls battant à une vitesse effrénée, j'ai quitté son bureau sans serrer sa main tendue. Je ne pouvais supporter l'idée de le toucher. Je comprends, vraiment. Je vois ce que Megan a vu en lui, et ce n'est pas seulement sa beauté saisissante. Il est calme et rassurant. Une douce patience émane de sa personne. Quelqu'un d'innocent, de confiant ou trop perdu pourrait ne pas voir à travers tout cela, ne pas se rendre compte que, sous cette surface paisible, un loup est tapis. Je comprends. Pendant près d'une heure, j'ai été sous son charme. Je me suis laissée aller à m'ouvrir à lui. J'ai oublié qui il était. J'ai trahi Scott. J'ai trahi Megan. Et je m'en sens coupable. Mais plus que tout, je me sens coupable parce que j'ai envie d'y retourner. Mercredi 7 août 2013. Matin. Je l'ai encore fait. Le rêve où j'ai fait quelque chose de mal. Où tout le monde se ligue contre moi, se range du côté de Tom. Où je suis incapable de m'expliquer ou de m'excuser, parce que je ne sais pas ce que j'ai fait. Dans ces quelques instants entre le rêve et l'éveil, je repense à une vraie dispute d'il y a longtemps, 4 ans, après l'échec de notre première et seule tentative de fécondation in vitro, alors que je voulais réessayer. Tom m'avait répondu que nous n'avions pas assez d'argent, et je n'avais pas remis en cause son argument. Je savais qu'il avait raison. Nous avions un important prêt immobilier à rembourser et il avait des dettes à éponger, à cause d'un mauvais investissement dans lequel son père l'avait entraîné quelques années plus tôt. Je devais m'y résoudre. Il ne me restait qu'à espérer qu'un jour, nous aurions assez d'économies pour un nouvel essai et, entre-temps, ravaler les larmes brûlantes qui me montaient instantanément aux yeux chaque fois que je voyais une inconnue au ventre rond ou qu'on m'annonçait l'heureux événement de quelqu'un d'autre. C'est à peu près 2 mois après avoir découvert que la FIV avait échoué qu'il m'a parlé de son week-end. Las Vegas, 4 nuits, pour aller voir un combat de boxe et relâcher la pression. Rien que lui et 2 ou 3 copains d'avant, des gens que je n'avais jamais rencontrés. Ça coûtait une fortune. Je le sais, parce que j'ai vu le reçu du billet d'avion et de la chambre d'hôtel dans sa boîte de réception. Je n'ai aucune idée du prix qu'avaient coûté les billets pour le match, mais j'imagine que ça ne devait pas être donné. Ça n'aurait pas suffi à payer une 2e FIV, mais ça aurait été un début. On a eu une affreuse dispute à ce sujet. Je ne me souviens pas des détails, parce que j'avais bu tout l'après-midi pour me préparer à cette discussion, et quand elle a enfin commencé, forcément, elle s'est terriblement mal déroulée. Je me souviens de sa froideur le lendemain, de son refus de m'adresser la parole. Je me souviens qu'il m'a raconté, d'un ton plat et déçu, ce que j'avais fait et dit, que j'avais brisé notre photo de mariage dans son cadre, que je lui avais hurlé qu'il était trop égoïste, que je l'avais traité de mari raté, de minable. Je me souviens à quel point je me suis détestée ce jour-là. J'ai eu tort, évidemment que j'ai eu tort de lui dire ces choses-là, mais aujourd'hui ce qui me vient à l'esprit, c'est que ma colère n'était pas injustifiée. J'avais tous les droits d'être en colère, non? Nous essayions d'avoir un bébé. N'aurions-nous pas dû accepter de faire des sacrifices? J'aurais donné un bras pour avoir un enfant. N'aurait-il pas pu se passer d'un week-end à Las Vegas? Je reste allongée un moment dans mon lit, à repenser à tout ça. Puis je me lève et je décide de partir me promener, parce que si je ne fais rien, je vais avoir envie d'aller à l'épicerie. Je n'ai pas bu depuis dimanche, et je sens la lutte que cela engendre en moi. Le désir d'un peu d'euphorie et le besoin de me changer les idées affrontent le vague sentiment que j'ai déjà accompli une partie du travail et que ce serait dommage d'abandonner maintenant. Ashbury n'est pas l'endroit idéal pour se balader. Il n'y a que des boutiques et des résidences, pas même un parc digne de ce nom. Je me dirige vers le centre-ville, qui n'est pas si mal quand il n'y a personne. Le truc, c'est d'arriver à se persuader qu'on va quelque part. Choisir un lieu et commencer à marcher. J'ai choisi l'église, au bout de Pleasance Road, qui doit être à 3 kilomètres de l'appartement de Cathy. Je suis allée à une réunion des alcooliques anonymes un jour là-bas. Je n'ai pas voulu aller à celle organisée plus près parce que je ne voulais pas tomber sur des gens que je risquais de croiser dans la rue, au supermarché ou dans le train. Quand j'arrive à l'église, je fais demi-tour et je repars, à grands pas, avec l'objectif de rentrer chez moi, comme une femme qui a des choses à faire et un endroit où aller. Normal. Je regarde les gens que je croise, les 2 hommes qui courent avec leur sac à dos et qui s'entraînent pour le marathon, la jeune femme avec une jupe noire et des baskets blanches, ses chaussures à talons dans son sac sur le chemin de son travail. Je me demande ce qu'ils cachent, eux. Est-ce qu'ils bougent pour arrêter de boire? Est-ce qu'ils courent pour rester à leur place? Est-ce qu'ils pensent à l'assassin qu'ils ont rencontré hier? Celui qu'ils prévoient de revoir? Je ne suis pas normale. Je suis presque rentrée quand je le vois. J'étais perdue dans mes pensées. Je pensais à ce que mes séances avec Kamal étaient censées accomplir. Est-ce que je compte fouiller dans les tiroirs de son bureau s'il quitte inopinément la pièce? Essayer de le piéger pour qu'il dise une phrase révélatrice, des mots qui le mèneront sur un terrain dangereux? Il est bien plus intelligent que moi, c'est certain. Il me verra venir. Après tout, il sait que son nom est apparu dans les journaux. Il doit se douter qu'il y a des gens qui essayent de recueillir des histoires sur lui ou des informations à son sujet. C'est à cela que je pense lorsque, la tête baissée et les yeux rivés sur le trottoir, je passe devant la petite épicerie sur ma droite en tâchant de ne pas regarder à l'intérieur parce que ça éveillerait trop de possibilités, mais du coin de l'œil, je vois son nom. Je lève les yeux Et il est là, dans un titre étalé en grosses lettres à la une d'un journal. Meghan a-t-elle tué son enfant ?